as you and I first. As you and I please. As you and I bite. As you and I clone. As you and I zia.
Oui, on est à la villa du parc d'Annemasse et Garance Chabert, sa directrice, m'a invité à faire une expo personnelle dans ce lieu. Moi, j'ai pas trop l'habitude d'exposer dans des lieux avec plein de pièces. Et là, les pièces sont pas très grandes, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'exposer dans des endroits un peu monobloc où je fais une pièce. Là, c'est un autre contexte. Là, il y a la notion de parcours qui rentre en compte. Après, il y avait un truc intéressant, c'est que moi, j'ai développé une activité d'écriture liée à mon travail, enfin forcément, mais qui est quand même tout de même restée un peu orbitale jusqu'à maintenant. Donc on a décidé d'articuler l'expo autour de ce que j'écris, mais pas de façon littérale, c'est-à-dire de créer comme une espèce de lien, comme du ciment entre des briques. Donc c'est vrai que chaque pièce peut être vue complètement hors contexte, mais là, en l'occurrence, moi j'ai pris le parti pris de créer un contexte fictionnel. Bon, la fiction, c'est pas nouveau, dans mon boulot, elle a toujours été latente. Donc encore une fois, c'est juste une manière d'organiser les choses de telle façon qui change un peu le regard sur mon travail, mais finalement, on est dans quelque chose que j'ai toujours fait, quoi. Sauf que là, je lui donne une forme, voilà. Donc l'expo, elle s'appelle Azurazine parce qu'elle correspond à tout un projet que je fais depuis longtemps qui touche pas mal de domaines, qui s'appelle Azurasia. Pour l'instant, qu'est-ce qui existe de Azurasia? Et ben, concrètement, il existe un disque du label Grauta qui s'appelle Azurasia et tout simplement qu'on a fait au Maroc en 2011 et qui de toute façon est à l'origine lui aussi de cette histoire de Azurasia. Parce que Azurasia remonte à un peu plus longtemps que ma résidence au Maroc, mais j'ai commencé à le développer vraiment à ce moment-là, où j'ai été invité en résidence vers Marrakech en 2011. Et il était question quand même de faire des projets, pour les artistes qui étaient là-bas, de faire des projets qui avaient une relation entre le Maroc et l'endroit d'où ils venaient. En l'occurrence, moi je venais de Berlin. Et puis j'étais tombé sur ce projet qui m'a toujours fasciné, qui s'appelle Atlantropa, qui est un projet d'un architecte munichois, Hermann Sörgel, qui en 1924 a planifié de construire un barrage géant à Gibraltar, de vider la Méditerranée, de pomper l'eau pour faire une mer au milieu de l'Afrique, et par la même occasion de faire 50 000 mégawatts à la seconde, 88 000 mètres cubes d'eau, c'est genre 5 EPR, quoi, c'était ambitieux, pour non seulement fournir l'Europe en électricité, mais aussi réunir trois continents, Asie, Afrique, Europe, et créer un espèce de monde utopique comme on pouvait en avoir dans les années 20, ou même après d'ailleurs, mais comme ils ont commencé à réellement à une espèce de métropolis. Et puis ils avaient autour de ça, lui, il était pote avec Peter Behrens et tout, donc il y a eu pas mal de dessins qu'ils ont fait, des plans. Bon, lui, c'était un ingénieur, hein, donc il était plutôt axé sur des théories mathématiques et des trucs comme ça. Mais Behrens a fait quelques dessins. Enfin, en tout cas, il y a tout un univers qui se crée pour lequel il militait en y croyant dur comme fer. Et moi, ça a touché dans le mille parce que j'aime beaucoup ces espèces d'utopies qui sont considérées comme probables et qui sont des promesses de virage à la dystopie directe, parce que je ne sais pas ce qui serait passé s'ils avaient commencé à le construire. Mais à mon avis, il y aurait quelque chose qui serait passé, forcément quelques imprévus. À vrai dire, la première idée d'Azurasia, je l'ai eue à Nice quand j'ai été en résidence à la Villa Arson, parce que pour moi, il y avait une forme de décadence qui planait dans cette ville qui me faisait penser à un espèce de monde en déclin, et ça tombait bien parce que Azurasia parle d'un monde en déclin, justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport au moment où la dystopie prend le pas sur l'utopie et fout tout en l'air, forme d'entropie en vrai. Et moi, là-bas, en fait, il était question au Maroc de faire un film. Et puis finalement, on n'avait pas ni le temps ni l'argent pour faire un film. Et puis en fait, le vrai problème aussi, c'est que moi, je ne suis pas cinéaste. Donc de toute façon, je suis absolument incapable de faire un film de fiction qui ne soit pas foireux. Donc. Et puis j'ai commencé à écrire et en fait, se poser la même question. C'est-à-dire que je ne suis pas écrivain, donc je suis absolument incapable de faire un bouquin qui ne soit pas foireux. Et donc, j'essaie, si tu veux... face à cette situation-là, il a bien fallu qu'on invente des éléments pour que Azure Asia, justement, existe d'une façon ou d'une autre. Et donc, moi, je me suis bien entouré par rapport à mon label, avec des musiciens qui sont des gens vachement bien, dont je cite Vincent Eplay ou Faro Acromion, parce que là-dedans, ou Arnaud Maguet, parce qu'ils sont impliqués dans le disque de Azure Asia. Mais en fait, je les ai invités au Maroc. Et on a commencé à faire de la musique en rencontrant des musiciens de là-bas, en faisant du field recording, etc. Moi, j'ai commencé à prendre des photos, à retoucher des trucs et à créer un univers qui a d'abord existé sur un disque, ce qui est le numéro 4 de Grauta, qui s'appelle Azure Asia, et qui est en gros la bande son d'un film fantôme qui n'existe pas. Et là-dessus, je trouve que c'était bien, parce que dans ce disque, il y a presque l'essentiel d'une histoire. Il y a tous les éléments et finalement on se dit que c'est presque un point de départ pour que les gens se la racontent elles-mêmes. Après moi j'ai continué d'écrire quand même parce que même s'il y a tous les points pour que les gens se racontent l'histoire elles-mêmes, ça me frustrait un peu, j'avais envie de raconter des choses moi aussi et de pas de m'impliquer. Puis j'ai commencé à écrire des choses comme ça, j'en ai écrit beaucoup, un peu dans le désordre. Et puis au bout d'un moment, j'arrivais pas à aller. C'est mon grand problème dans mon travail en général, c'est que j'arrive pas à regrouper ces fragments dans un ordre. J'arrive pas à choisir un ordre pour regrouper tous ces fragments. Donc là, en fait, finalement, j'ai décidé d'accepter que ces fragments, c'est comme ça. Je suis quelqu'un de fragmenté, et donc en fait, l'expo, ce sont aussi des fragments de récits. Ou peut-être là, ce coup-là, les gens, ils ont à reconstituer ce qui rentre tant que je les ai pas écrits. Subterranean, en hommage d'ailleurs à Bowie. En fait, c'est vrai qu'on est parti de cette pièce-là. Donc, c'est cette installation que tu vois qui est constituée de trois rétroprojecteurs des familles, comme on dit. C'est-à-dire le vrai rétroprojecteur à rhodoïde, comme on a pu tous connaître, au collège, dans les bureaucraties soviétiques, sur laquelle moi je fais défiler des rhodoïdes. Qui sont actionnés par un moteur, parce que ce sont des rouleaux où il y a 27 rhodoïdes à chaque élément, il y a trois éléments, et qui sont actionnés par une machine qui est programmée pour que le rouleau, à chaque image, s'arrête environ 20 secondes, continue jusqu'à la fin, puis pof, ils reviennent dans l'autre sens. Donc, c'est un petit programme informatique qui est conçu par Guillaume Stagnaro et qui je travaille comme ça pour ce genre de machine technique, sur laquelle est projeté en fait, des illustrations. D'une espèce de ville utopique où moi je regroupe tous les archétypes en les accentuant, presque en les exagérant, d'une forme d'architecture, disons, hybride de brutalisme, d'architecture soviétique, une architecture moderniste, comme ça, très utopique, un peu démesurée. Cette vie, je la construis toujours. J'aime bien cette idée de construire une ville, en fait. Et je la fais sur SketchUp, qui est de la 3D pour chiens. Et ce que j'aime bien dans ce logiciel 3D, c'est qu'il permet, justement, du fait qu'il est complètement rudimentaire, mais l'air de rien, il est vachement bien, parce qu'il permet d'improviser, parce qu'on dessine, comme avec un crayon et un tire-ligne. Après, il ne satisfait pas les gens en général, parce que les qualités qui procurent, en tout cas visuelles, elles sont assez rudimentaires. Néanmoins, il y a quand même du soleil. On peut quand même mettre le soleil et créer des ombres. Et donc, moi, une fois que j'ai créé cette ville, elle m'a tiré d'une manière assez rudimentaire, avec des bouts de béton, mais assez simple. Je l'ai exporté en 2D et je l'ai imprimé sur rhodoïde en noir et blanc. Et c'est marrant parce que le côté un peu rudimentaire de SketchUp te donne l'impression de regarder des espèces d'illustrations à la mine de plomb. Ou bien des imprimés comme dans une revue un peu des années 50 comme ça. Donc il y a un espèce de truc moi qui m'intéresse parce que je suis pas du tout dans le trip rétro, mais là ça me fait penser carrément à une uchronie. Et c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse, le côté archive uchronique. Et sinon dans cette ville il est question quand même justement d'une espèce d'utopie aussi. Avec des aspects monstrueux, mais bon, les utopies ont toujours des aspects monstrueux. Et comme je disais tout à l'heure, l'expo, elle s'articule quand même sur l'idée qu'à la base, on rentre en bas et il y a quand même comme ça l'expression d'une utopie, enfin d'une vision utopique. Et puis, petit à petit, on monte dans l'expo et on a une espèce de versant dystopique qui commence à se créer et qui, lui, est plus réaliste, en fait, et aussi touche plus l'intime ou peut-être même où il y a question de personnages qui arrivent, etc. Donc, on peut dire qu'on est dans une projection en bas, comme ça, et petit à petit, ça vire à une histoire. Voilà. Qui est la théorie et puis le vécu. Le truc, c'est que dans l'organisation d'expo, ce que j'avais envie, c'est que l'articulation se fasse petit à petit. Donc, de ce passage à l'utopie vers comme ça, une histoire presque intime, plus dystopique. Alors là, tu as ce placardage d'affiches qui sont un peu des fausses archives. Enfin, c'est des fausses vraies archives. Alors, ce que je te garantis, c'est que dans l'expo, tout est 100% faux. Moi, j'en fais une question de principe, il n'y a rien qui est vrai. C'est-à-dire que je fais énormément de photos, mais les vraies photos m'emmerdent complètement. Parce que je ne suis pas photographe. Enfin, je veux dire les miennes. Hein. Je ne dis pas que les photos des autres m'emmerdent complètement. Il y a des photos que j'adore. Mais moi, en ce qui me concerne, dans mon trip, là, je ne peux pas faire une vraie photo. J'ai l'impression de mentir, finalement, quand je fais une vraie photo. Donc là, c'est les photos que j'ai, à la base, évidemment, faites. Sauf celles-là que j'ai scannées dans un bouquin. Mais ces photos ont toutes quelque chose de retouché. Alors, soit j'enlève, parce que dans une image, il y a des éléments qui vont te narrer quelque chose avec lequel j'ai pas envie de m'encombrer. Soit il manque quelque chose par rapport à sa voisine, et dans ce cas, je rajoute quelque chose. Là, en l'occurrence, ce que je rajoute, c'est des liens qui se font entre toutes les pièces. J'avais vraiment envie que ça soit... On est dans le couloir, donc il fallait que ça soit un peu le truc qui lance des toiles d'araignée un peu partout. Enfin, tous les bouts ont un peu ce rôle-là, mais celui-là, je voulais comme ça, parce que c'est dans le couloir. Et puis il y avait un autre chose, c'est que justement, après avoir parlé de théorie utopique, de dessin, finalement on parle de dessin dans la première, là on commence à parler d'une histoire et d'un vécu, c'est-à-dire on commence à parler presque, à montrer, parce que là ça parle pas, ça montre, à montrer des cicatrices déjà naissantes, comme une nature meurtrie par des excavatrices ou des trucs éboulés, et puis en même temps des gens qui vaquent à leurs occupations au milieu finalement. Donc... Et ça, c'est un peu comme dans mon label Grautax, ce qui nous intéresse, c'est la dystopie, mais pas dans ce côté dramatique, c'est-à-dire de montrer presque des univers complètement trash, et puis finalement avec des gens qui vaquent à leurs occupations à l'intérieur sans drama. Et là, c'est un peu ce que tu vois. Bon, là, il y a des mecs qui bossent, là, il n'y a personne. Hein. On s'est assis, il y a un mec au loin qui est là. Bon, ça n'a pas l'air d'être si mal, finalement. Eux, ils bossent, eux, ils sont en train de discuter sur quelque chose, mais tu vois, il n'y a pas la souffrance... Tu vois, je ne suis pas dans l'expressionnisme machin, quoi. Eux, ils causent, tu vois, bon, ils ont l'air d'en chier dans la vie, mais en même temps, là, ça a l'air de... Disons que ce n'est pas la question, voilà. Et ça, on le retrouve dans mes écrits, c'est-à-dire que dans Azurasia, on est vraiment dans un monde qui est en train de partir en sucette, et les personnages à l'intérieur ne sont pas finalement plus préoccupés que ça, comme nous d'ailleurs, par leur monde qui part en sucette, plutôt que par le fait de pouvoir évoluer dedans en faisant ce qu'ils ont à faire et malgré le fait qu'ils soient, tu vois, pas forcément cyniques ni rien, mais qu'ils aient aussi leur vie, quoi, tu vois, parce que finalement, voilà, ils ont une question de survie ou de vie, tout simplement. Donc là, tu tournes un peu en rond dans cet endroit, il n'y a pas trop de parcours. Là, j'aimais bien, j'avais envie de compléter en fait cette vision de dessin donc par une espèce de tentative d'une vision photographique qu'on n'est pas une en fait. On est presque encore comme dans un tableau, dans un bureau, tu vois. Et comme on avait cet endroit qu'on voulait complètement vide, et il y avait un texte déjà, à un moment il était question de rien mettre, et puis ça posait un problème parce que ça sacralisait trop cette table, et en fait cette table c'est un outil, c'est pas un objet d'art, quoi. Donc on trouvait que c'était assez intéressant la confrontation entre quelqu'un qui est de biais en train de lire là, qui a vu ça et qui va voir ça, parce que c'est comme si le texte devenait la manière d'incarner justement d'un projet à un vécu quelque chose. Donc il y avait ce basculement photoréalisme. Alors comme on est dans ce truc-là, à partir du moment où tu bascules dans le vécu, c'est marrant de pouvoir faire apparaître des éléments qui seraient comme des fausses archives. Alors moi j'ai ramené dans ces vitrines, il y en a deux vitrines, il y en a une en bas, une en haut. Ce que je mets dans les vitrines, finalement, c'est tout simplement des objets qui sont pour moi des objets cultes et qui sont aussi des objets qui conditionnent mon travail. Donc tu as ces deux exemplaires de bouquins d'histoire de lycée est-allemand où tu as quand même ces illustrations qui m'ont vachement inspiré. Et en plus, il y a un barrage, quoi. Donc comme on peut... Ça, c'est le premier croquis, c'est la première tour que j'ai décidé en faisant du photomontage que tu retrouves un peu partout, en fait. J'ai gardé ce croquis parce que ça devient un dessin. Je trouve qu'il devient comme un plan. Il a quelque chose de précieux, presque dans ce côté brouillon qui me plaît. Enfin, il a déjà une fiction. Ça, c'est une salle de réunion en Corée du Nord que j'ai mis dans un cadre. Là, il est question aussi de la Corée du Nord. C'est un petit fascicule qu'on trouvait à la Biennale d'architecture de Venise, qui a été commandité par un artiste illustrateur nord-coréen pour parler d'architecture. Voilà. C'est édité par la Biennale de Venise, hein, donc c'est pas du tout un truc vintage, mais je l'adore, je l'ai mis. Et puis là, c'est un peu comme un nuancier d'architecte pour la décoration intérieure, tu vois. Mais finalement, des petits éléments comme ça te foutent tout de suite dans une atmosphère, quoi. Donc un lino vert foncé, tu verras dans le texte, il y a un dessus de lit rouge et un papier peint, sable ou poussière, ça dépend de la lumière électrique ou du jour. Alors en fait, l'expo, elle s'appelle Azure Azline. Parce que c'est quand je te parle, bon, alors là on va pas rentrer dans le débat, c'est un peu long, puis je vais laisser ça aux philosophes parce que moi je suis un pataphilosophe, quoi. Je suis un peu professeur Shadoko de la philosophie, si tu veux. Si tu m'envoies un philosophe, il va me botter le cul. Mais bon, moi il y a un truc que j'aimais bien, un truc qui m'a intéressé, bah, évidemment, c'est l'être étant et des guerriens, quoi. C'est aussi. Oui, c'est la, je dirais pas c'est la posture, mais je dirais c'est cette espèce de réflexion sur, ouais, sur la présence et sur l'absence qui me plaît beaucoup. Et ce Dasein, moi j'ai appelé l'expo Azure Azein parce que finalement, à travers ce monde de Azure Asia, c'est une question de position aussi. Et comme ce monde, moi, il est, je le considère comme un calque que tu pourras poser sur la réalité. Donc c'est une fiction finalement qui a la portée de tout ce que tu peux emmener avec toi. Si tu vas en Égypte ou je sais pas où, tu peux décider que tu es Azure Asia. Donc on est presque dans un espèce de truc d'être, tu vois, permanent. Donc j'aimais bien présenter Azure Asia, non pas comme un film de science-fiction possible, non pas, mais comme un espèce de calque que tu poserais sur ta réalité. Donc j'ai appelé ça Azure Asia, une lettre Azure Asia. Et j'ai fait une bande-son parce que j'avais vachement envie de travailler le son dans cette expo comme un vecteur. Il est très présent, le son, dans le bruit des machines. C'est marrant, mais j'avais envie de créer la face numéro 5 du disque Azure Asia, qui n'en comporte que 4. Et puis, c'était une manière de presque aussi commencer à rentrer plus dans la logique d'une série télé qui n'existerait pas que d'un film qui n'existerait pas. Je trouve que le format m'intéresse plus, en fait, dans l'idée. Je préférerais que ça passe à la télé. Et donc... Il se trouve que Pharoah Chromium, qui a participé au disque, a joué un air de flûte sur ce disque, est devenu presque le thème d'Azure Asia. Donc moi, j'ai repris ce morceau. Je te le jouerai tout à l'heure, si tu veux. Je peux te l'allumer, là, mais il faut que je rembobine comme tu veux.
On peut faire une pause maintenant, si tu veux.
Ouais, ouais, je te le remets. Il faut que j'inverse.
Alors, la bête. Voilà.
Hop. Il est beau, celui-là, en plus. Super magnéto. Sony. Ah oui, attends, on va arrêter. Ah, merde. Voilà. Il risque de faire un Larsen parce qu'il a un peu d'usure sur un truc, mais il le fait pas tout le temps. Merde,
c'est pas le bon côté, désolé.
Donc en fait, une fois que tu fais le tour comme ça, tu es amené à monter l'escalier jusqu'en haut. En arrivant en haut, en fait, tu tombes sur cette série d'images. Tu as sur la gauche un volume. Sur la droite, tu as une série d'images de table où tu peux lire encore. Tu as deux vidéos, une vitrine. Et de l'autre côté, tu as une projection de diapositives noires et blanc que je vais t'allumer. S'ils allument les... Là c'est pareil, un peu de lenteur. Il y a un peu de lenteur tout simplement parce que cette machine doit faire l'autofocus sur la diapo et il met le temps qu'il veut. Le timer est réglé un peu trop rapide. Attends, je vais voir. Quelqu'un qui a tripoté ça. C'est mieux comme ça, je veux que ça passe très lentement. On reviendra après. En fait, ça c'est des photographies justement. Je disais que ça m'ennuyait les vraies photos, mais passer un certain stade, ça m'amuse. Si tu veux, quand tu montes en haut, en principe, tu as lu, tu as commencé à évoluer dans ce monde comme ça que je te décrivais en bas. Et en fait, ce monde-là, il continue. Mais là, tu arrives dans 15 pseudo, en fait, photogrammes fictionnels d'un film qui n'existerait pas. Et là, tu as commencé à avoir plus d'éléments sur justement sur un truc de vécu, évidemment, parce que tu as des personnages aussi. Donc, tu rentres plus... Non, si tu veux, tu arrives plus vers quelque chose qui est plus narratif. Même si en même temps, ce que ça te narre, c'est pas très précis finalement. Parce que là, celle-là, bon, là, tu as le monument de Azurasia. Là, tu as un mec, une chaise roulante. Tu as des personnages qui parlent. Tes personnages toujours un peu isolés. Enfin, bon, c'est une série de paysages. Mais que moi, j'ai travaillé vraiment en pensant comme ça, une espèce de charte visuelle un peu photoréaliste mais très cinématographique justement du monde d'Azurasia en reprenant comme ça des espèces d'éléments ou de symboles moi qui m'obsède un petit peu donc cet hélicoptère à trois pales que j'ai inventé que j'appelle le trirotor, t'as des épaves de bateau évidemment, des épaves, beaucoup d'épaves une espèce de monde très sableux comme ça un peu brumeux ouais, de missiles ou de fusées c'est toutes des photos retouchées assez simplement. J'aime bien cette idée que finalement ne pas être forcément je le nomme pas comme un film parce que j'aime bien que finalement s'il y a des choses avec lesquelles tu fais lien entre ce qui est écrit et ce qui est montré, c'est que ça aussi comme si ça devenait tes propres souvenirs à toi. Toi un truc un peu schizo, un peu l'idée de la mémoire implantée. Là je te parlais du calque sur la réalité, mais ça peut être une mémoire implantée donc. C'est là où je pense que c'est plus mental, enfin assez intime aussi, tu vois. Et encore une fois, comme je parlais d'en bas, c'est-à-dire que je tiens toujours à ce que dans ces paysages potentiellement un peu apocalyptiques, les personnes qui soient présentes soient toujours dans une posture qui est finalement pas dramatique, tu vois. Il n'y a pas de tragédie. Les personnages sont assez laconiques, même le regard, ils sautent dans l'eau. Là, on est. Tu sais, moi, ça c'est une grosse partie de mon travail et. C'est travailler sur autour de l'idée de la ruine, de l'architecture, de la fabrication de choses. C'est entre la maquette, le prototype, ou la sculpture, enfin des objets un peu hybrides qui parlent du construit, du détruit, ou des choses qui intègrent l'idée de leur propre ruine ou de leur propre côté éléphant blanc à l'intérieur. Et là en l'occurrence, je suis parlé tout simplement du cheval de frise. Tu sais, ces trucs en rails de chemin de fer contre les chars, enfin, qui sont mis comme barrage sur les routes, enfin, qui sont utilisés dans les frontières, en général. Tu vois qu'ils sont liés au centre, donc ça fait cette forme dont je ne me rappelle jamais le nom, qui est absolument terrible, là, comme Raphaël Zarka travaillait là-dessus vachement, ou la bibliothèque de Minsk aussi, cette forme qui est un rubis, des drons, un truc comme ça. Putain, je suis nul, mais j'arrive pas. Là. En même temps, je voulais... partir du cheval de frise et pas être dans l'espèce de, tu sais, de truc littéral, de montrer des chevaux de frise pour, je sais pas, exprimer une frontière. Même la pièce s'appelle Frontière, mais justement, je voulais pas tomber dans cette espèce de stéréotype. J'avais plutôt envie de voir comment une forme géométrique de ce type-là se...
Tout est bon.
Je crois. Là. En se coordonnant, pouvait... pouvait se développer en série et devenir aussi une architecture qui flanche, tu vois, un chavirage, un naufrage en fait. Ouais. Donc il y a ces deux choses là-dedans, tu vois. Et puis le fer à béton, c'est comme une architecture filaire aussi, tu vois. Puis il y a un côté barbelé naturel, quoi. Enfin, il y a un côté un peu roots comme ça. C'est aussi une autre approche de, tu vois, de ce rapport au paysage, quoi. Parce que finalement, là, depuis en bas, je te parle de paysage. Hein. Et de paysage romantique même. Donc, parce que moi, je suis un artiste romantique. Hein. Voilà, je t'entends. Alors voilà, je t'explique. Ça, c'est Pharoachromium Razi Barakat, que tu vois d'ailleurs qui apparaît sur les vidéos et les images, qui est parti avec nous au Maroc pour faire le disque Azurasia, qui a fait la face A et la face C du disque, que j'invite. Là aussi, on est dans le truc de fiction et de réalité. C'est que Razi, en fait, c'est une partie prenante de Azurasia. Là, il apparaît comme musicien, mais on va le reconnaître sur les photos. Enfin, il y a une espèce de truc. Et là, il fait sa balance pour jouer ce soir. Quoi ?
Il sait comment ça marche.
Tu veux que j'aille le chercher ? Je vais aller le chercher, Michel. Attends, je finis juste ça et j'arrive. Là, tu rentres dans cette salle, tu as 80 diapos. En fait, c'est 80 photos, moi, que j'ai fait quand j'ai voyagé au Maroc, etc., qui sont des endroits qui m'ont hyper influencé aussi pour l'écriture de Azurasia, que je voulais planter comme des archives. Je les ai photographiés sur mon ordinateur avec une diapo noir et blanc. Comme ça, ils se mettent à avoir un aspect d'objet aussi et une lumière qui m'intéresse parce que... Tout simplement parce que comme je ne suis pas photographe, je t'avouerai que les photos numériques que j'ai fait là-bas, c'est un peu nul. Hein, tu vois. Alors, là, au moins, ça devient plus intéressant à regarder. Mais j'avais envie de montrer ces archives parce que là aussi, tu vois, on est dans une ambivalence entre la réalité et la fiction. En l'occurrence, ça, c'est des vrais documents. Donc c'est aussi, évidemment, potentiellement un lieu où on pourrait tourner Azurasia sans même avoir faire de 3D ou quoi que ce soit. Quoi. Mais c'est aussi des endroits qui m'ont vraiment influencé. Quoi. Donc là, si tu restes un peu, tu as une ville sur la côte marocaine qui est une station balnéaire qui n'a jamais été finie, qui s'appelle Souriak Dima, au large de Safi, qui est une ville où il y a une énorme usine de phosphate. On voit les barbelés de la frontière de cette usine dans certaines des images. Et des quartiers de la banlieue de Gaza, où des complexes immobiliers entiers n'ont jamais été finis, mais néanmoins ont été investis par des gens pour y habiter. Voilà. En gros, pour résumer aussi, c'est la première fois que le processus de mon travail apparaît dans une expo. Ouais. On pourrait résumer aussi ça. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, donc ça m'intéresse de l'expérimenter. Bon. Donc là, tu as encore une vitrine. Et comme tu peux voir, la vitrine, elle est plus comme des objets personnels, contrairement à celle d'en bas, qui est comme des archives un peu puisées dans une bibliothèque. Donc tu as un téléphone portable, un attaché case, des hélicoptères. Une camisa. Couleur sable, une plaque, un panorama qui est constitué d'images d'ailleurs, dont les diapos qui proviennent des diapos, mais celle-ci a été retouchée aussi comme un paysage de fiction vraiment. Et puis tu as ces deux vidéos que j'ai pas mis en route. Là, c'est des vidéos que j'ai capturées par hasard, elles ne sont pas vraiment tournées, c'est-à-dire que c'est des choses, des moments que j'ai saisis.
Tu l'as montré à Angers, ça, non ?
Je l'ai montré à Angers,
ouais.
Tu l'avais vu ?
Ouais.
Donc c'est un éclair, c'est un orage de chaleur, une nuit. Là c'est pareil, quoi. C'est des personnages qui boivent du champagne en regardant l'apocalypse. On ne voit pas qu'ils boivent du champagne, mais c'est une prise que j'ai fait avec des amis. En fait, on a regardé un soir cet orage et je l'ai filmé. Et comme il est au ralenti, les grillons se mettent à devenir des crapauds aussi. Se mettent et donc c'est comme ça, c'est une forme d'Azurasine, ça, tu vois. Il y a aussi une vidéo où Razi fumait un narguilé au Maroc et je l'ai juste filmé. Petit clin d'œil à William Burroughs. Vous savez, c'est de l'orientalisme, hein, mon truc, en fait, tu vois, de bas en haut, là. Mais c'est un orientalisme un peu...